Radio-Canada, audio.
Est-ce qu'on aurait pu le savoir, enfant, que j'étais neurodivergente? Dans les années 90, je pense pas qu'on aurait pu déceler que j'avais un profil autistique et TDAH avec des traits de haut potentiel. À cette époque-là, on pensait encore que l'autisme de niveau 1 et le TDAH, ben ça touchait principalement les garçons. Donc, je ne correspondais pas au portrait qu'on se faisait d'une personne neurodivergente. Les femmes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce balado, non plus. On est toutes passées entre les mailles du filet, mais ça a quand même fini par nous rattraper. Vous allez entendre leurs témoignages tout au long des épisodes. Vous écoutez « Apparaître », la neurodivergence invisible. Épisode 1, le visage féminin de la neurodivergence. Dans ce balado, on utilise le plus souvent le mot « autiste », mais il y a plusieurs personnes qui utilisent d'autres termes, dont Asperger, ASPI ou TSA, qui signifie « trouble du spectre de l'autisme ». On utilise aussi les acronymes TDAH pour référer aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et HPI pour parler du haut potentiel intellectuel ou la douance. Et puisqu'on parle de l'importance des mots, on a demandé à la docteure Eliane Chevrier, neuropsychologue, formatrice, conférencière et autrice, de nous définir clairement ce qu'est la neurodivergence. Surtout celle à large spectre, sur laquelle on va majoritairement s'attarder ici.
La neurodivergence, c'est d'aller identifier un profil cognitif qui est différent de la norme, de la moyenne. Dans la neurodivergence, on parle souvent de troubles du spectre de l'autisme, de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité-impulsivité, qui sont des troubles qui ont un impact sur beaucoup de sphères de la vie. C'est-à-dire au niveau social, au niveau de l'autonomie au quotidien, au niveau du fonctionnement avec les autres, avec les collègues, les employeurs, etc. Là.
On dit que la neurodivergence, c'est par définition neurodéveloppementale, ouais. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, neurodéveloppementale?
C'est neurodéveloppementale parce que, en fait, on se développe de cette façon-là. Peut-être qu'on l'identifie à 10 ans, à 15 ans, à 35 ans, mais à la naissance, l'humain, si je le prends au niveau général ou biologique, ben, il naît avec un fonctionnement et avec un développement hormonal, génétique, avec tout son bagage. Alors, c'est en soi. Et oui, il y a plus de chances qu'un parent qui porte une neurodivergence ou un trouble neurodéveloppemental, que son enfant est aussi ce trouble. Mais on le sait que des fois, ça arrive, puis on n'a pas de traces d'hérédité.
Avant, j'ai lu qu'on disait qu'il y avait à peu près une fille pour 6 garçons sur le spectre de l'autisme, mais que maintenant, la statistique, c'était un peu qu'il y avait une moins grande différence entre les deux sexes.
Bien, effectivement, c'est ce que la recherche semble montrer. Puis en fait, dans à peu près tous les troubles neurodéveloppementaux, l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention, ces deux troubles-là, donc le TSA et le TDAH, oui, la surreprésentation des hommes tend à diminuer avec les années, avec nos critères diagnostiques qui évoluent, avec notre façon de les identifier. La proportion finit par se ressembler davantage, là.
Selon Dr Chevrier, ça fait une vingtaine d'années qu'on observe cette diminution de l'écart statistique entre les hommes et les femmes atteints d'un trouble comme le TSA et le TDAH. Puis il y a des raisons qui expliquent ça.
Les critères étaient faits avec des échantillons d'enfants-garçons. Est-ce que c'est la même chose pour les filles? Ben non, ils ne faisaient pas partie de notre échantillon, ils sont trop différents, ben on n'observera pas les mêmes choses. Ça a évolué et on le comprend de mieux en mieux. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a des aspects génétiques, il y a des aspects héréditaires. On n'a pas les mêmes chromosomes, on ne réagit pas de la même façon aux tératogènes, aux environnements, à tout ça. L'aspect extériorisé du comportement. Et là, autant dans le trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité, hyperactivité, que dans le trouble du spectre de l'autisme, l'aspect extériorisé du comportement, donc par des comportements impulsif, hyperactif, agité, aussi par les maniérismes, les rigidités, les intérêts restreints, les particularités, sont souvent moindres chez la fille. Donc, on va moins en percevoir, elles sont moins manifestes. Depuis 2006 que j'ai mon permis de pratique, on voit la différence. Ça va faire presque 20 ans. Puis il y a des jeunes femmes que j'ai sans doute clairement échappées, si je peux me permettre, ou pas diagnostiquées, pas identifiées. C'est pas une statistique, mais, non, mais on le voit en 15-20 ans. L'ouverture et la conscience est rendue presque automatique de dire ben, il est possible que ce soit différent selon le genre de la personne. Et encore là aussi, ça dépend du groupe d'âge qu'on se rencontre, parce que je parle beaucoup du groupe d'âge, mais c'est une variable qui est très importante quand on parle de la femme qui se fait identifier avec un trouble neurodéveloppemental, que ce soit le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le trouble du spectre de l'autisme, entre autres, là, ces deux-là principalement, ou c'est plus tardivement. Et des fois, ça vient, en fait, assez souvent associé ou après d'autres diagnostics au niveau de la santé mentale, anxiété, dépression, obsession, compulsion, etc. Là.
En fait, les femmes neurodivergentes dites fonctionnelles, qui sont aujourd'hui dans la trentaine, la quarantaine ou même au-delà, on les repère en ce moment même, souvent après un ou plusieurs effondrements. À l'époque où elles étaient enfants, on n'avait pas encore reconnu les particularités du profil féminin. La vague de diagnostic actuelle, c'est donc un effet de rattrapage, en quelque sorte. Un exemple éloquent, c'est celui d'Isabelle, qui a eu son diagnostic d'autisme de niveau 1 au début de la quarantaine.
Est-ce que tu peux nous parler de comment tu étais quand tu étais enfant, puis des trucs qui, avec du recul maintenant peut-être, font des liens avec le diagnostic que tu as eu?
J'étais un enfant très réservé. Très timide, qui suit beaucoup, beaucoup les consignes, que c'est très important, les règles, suivre les règles, puis qu'il ne faut surtout pas faire de faux pas. Puis c'est quelque chose quand même souvent répondu dans le monde chez les autistes, de respecter les règles, la justice. Je lisais énormément. T'sais, j'avais une amie. Je n'étais pas capable d'avoir plein d'amis. Je ne comprends pas encore à ce jour comment les gens font pour avoir plein d'amis. C'est beaucoup trop d'entretien.
Depuis plusieurs années, la psychologue Isabelle Hainaut se spécialise dans la vulgarisation et la formation sur l'autisme au féminin. Avec son collègue Tony Atwood, une sommité mondiale, elle a développé une grille d'évaluation adaptée aux petites filles et aux femmes. Dr Hainaut est notamment l'autrice du livre « Le syndrome d'Asperger au féminin ».
Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à détecter, parce qu'il y a vraiment plusieurs facteurs, plusieurs caractéristiques, et encore plus au niveau du profil féminin, on est dans la subtilité.
C'est surtout sur le TSA niveau 1 qu'on se penche, nous.
Oui,
parce que j'ai l'impression que les TSA niveau 2 et 3 sont diagnostiqués dans la majorité du temps dans l'enfance, si
oui,
je me trompe pas.
Exactement. Quand on parle de Asperger au niveau 1, comme il n'y a pas de déficience intellectuelle, le diagnostic arrive plus tard. Il y a des femmes qui nous disent, en fait, j'ai attendu tout ce temps, puis le ou la professionnelle n'a pas su détecter, parce qu'on est encore beaucoup dans les stéréotypes de l'autisme. Je vous vois entrer aujourd'hui, c'est pas écrit dans votre visage. Quelqu'un qui connaît pas le profil féminin, il va jamais évoquer, imaginer, parce que ça se voit pas, ça se vit de l'intérieur.
Comment on aurait pu faire pour savoir quand j'étais enfant que j'étais autiste? C'est quoi les signes?
Donc, on a toute une série d'observation. On regarde les comportements, les routines, est-ce qu'il y a des stéréotypies, des comportements un peu rigides, routiniers. Il y a tout l'aspect sensoriel qui est les hyper ou les hypo, les interactions de communication, etc. Donc, grosso modo, le jeu. Est-ce que vous étiez capable de jouer avec les amis de façon réciproque? Ou, je donne un exemple, j'ai des jeunes filles, elles jouent au professeur. Ils font des lettres, des tableaux, des dessins, puis elles enseignent à leur toutou ou à leurs amis, mais il n'y a pas d'interaction, c'est le petit professeur. Là, je donne un autre exemple. Une maman me disait, Isabelle, vous vous trompez. Je dis, pourquoi? Elle dit, ma fille joue avec les Barbie comme toutes les autres petites filles. Mais je dis, comment elle joue? Elle les aligne, elle peigne les cheveux, Elle ne parle pas avec Ken. C'est fonctionnel. Je l'habille, je la déshabille. Je regarde les détails, je les classe. Donc, c'est du classement. Souvent, la jeune fille, elle ne s'ennuie pas quand elle est seule. Je ne dis pas qu'elle ne veut pas socialiser parce qu'elle joue avec ses frères, ses sœurs et tout, mais elle pourrait être dans sa chambre et elle ne s'ennuie jamais. Vous voyez, c'est subtil un peu, là, mais l'art de la conversation n'est pas la même. Il peut y avoir des monologues sur des sujets d'intérêt. Et souvent, avec ce qu'on appelle une certaine immaturité affective, sociale, grandeur, décalage, immaturité, il y a aussi plus de difficultés chez les jeunes filles à gérer les émotions. Parfois, elles vont être trop contentes. Puis là, elle va coller ses amis. Elle ne comprend pas qu'il y a une bulle. Elle devient obsédée par ses amis. Elle ne veut pas perdre ses amis. C'est un peu trop ou pas assez. Et difficulté de gérer la colère, la frustration, qui sont souvent animées par une incompréhension. On a changé quelque chose dans mon environnement. Imprévu égale anxiété, parce que soit elle comprend pas ou elle a une certaine rigidité. C'est ma manière ou ça marche pas. Et là, ça engendre des crises de colère. Donc, c'est ça les signes.
Je me reconnais pas mal dans plusieurs des traits de la petite fille autiste de niveau 1. Mes activités préférées, c'était les choses que je faisais toute seule. J'aimais pas vraiment ça, jouer. J'aimais mieux apprendre, entretenir des intérêts spéciaux, puis transmettre mes connaissances aux autres. Aussi, j'avais souvent de la misère à gérer mes émotions, qui étaient très intenses, comme Isabelle.
Enfin, je pleurais beaucoup avant de dormir. Ça vient de me revenir à l'esprit. Ma mère était venue me voir, puis elle dit « Bien, voyons donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as de la peine? » Puis j'avais répondu à ma mère « Mais ça m'aide à dormir. » Mais dans le fond, c'était une surcharge qui ressortait.
La régulation émotionnelle.
Oui, vraiment. Au même titre qu'il y en a qui font du flapping, ouais. Là, qui battent des mains. Puis tu sais, je me souviens, adolescente, d'avoir eu des périodes où je me frappais, où je me faisais mal. Je me suis pas blessée, mais tu sais.
Chaque personne neurodivergente est unique. Et les troubles peuvent se présenter très différemment d'une personne à l'autre. Même si on a un diagnostic en commun, Isabelle et moi, on n'est pas tout à fait pareil. Mais un des traits qu'on partage, c'est qu'on est hypersensible à plusieurs niveaux. À cause de ça, on est plus susceptible d'avoir ce qu'on appelle des surcharges cognitives. Une surcharge, c'est quand les stimuli, soit internes, comme les émotions ou les pensées intrusives, ou externes, comme le bruit, la lumière ou les interactions sociales, nous saturent au point où on a de la difficulté à fonctionner puis à nous contrôler. Comment on pourrait expliquer ce que c'est que l'hypersensibilité, l'hyposensibilité, puis est-ce que ça a un lien justement avec la surcharge cognitive qui est souvent expérimentée par les personnes TDAH ou autistes, si je ne me trompe pas?
Non, vous ne vous trompez pas. Pour certains troubles neurodéveloppementaux ou certains fonctionnements de neurodivergents, il y a plus d'enjeux d'hypersensibilité et d'hypo aussi, des fois, selon les stimuli. Si je suis hyposensible, je ressens moins. L'hypersensibilité, c'est un peu le contraire. C'est comme être à vif. C'est de ressentir fortement certains stimuli qui peuvent être normaux pour la moyenne des ours.
Les lumières, le bruit, les odeurs, le toucher. J'ai beaucoup de difficultés à me faire toucher. Tu sais, serrer la main, ça va. Mais les accolades, non.
Mm-mm.
Moi, je peux ressentir, si je me fais toucher d'une façon que j'aime pas, je le ressens très longtemps. Ça peut me suivre toute la journée.
Comme si l'empreinte de la personne était encore
l'empreinte.
Sur toi.
Oui. Mm. Puis j'en avais pas tant pris conscience parce que tu dis tout le monde est comme ça.
Isabelle vient d'amener un point important ici. Quand nos symptômes puis nos traits sont intériorisés, donc invisibles, on pense souvent que tout le monde est comme nous. C'est pour ça que ça prend du temps à certaines femmes neurodivergentes pour prendre conscience de leurs différences, puis qu'elles ont souvent des pensées du genre « Ben, si tout le monde est capable, pourquoi pas moi? » Même si Isabelle en connaissait plus que la plupart des gens sur l'autisme, de par son travail d'enseignante, entre autres, c'est tout récemment seulement qu'elle a pris connaissance du profil féminin.
j'ai plus lu de façon dirigée vers le profil féminin quand j'ai eu mon diagnostic. Parce que tout ce que je savais de l'autisme, ça collait à moi, mais pas tant. Puis j'ai voulu chercher quelqu'un qui était pareil comme moi. Je n'en trouvais pas. C'était tout le temps des femmes sans conjoint. Ou s'il y avait un conjoint, il n'y avait pas d'enfant. Ou il n'y avait pas de travail, ou il changeait de job régulièrement, ou il était travailleur autonome. Ou sinon, ceux qui avaient la même job depuis longtemps, ils ont souvent des arrêts de travail pour épuisement professionnel. Ce qui n'était pas mon cas.
C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des personnes diagnostiquées qui sont plus comme moi, là, un peu qui se cherchent, qui commencent toujours des nouveaux projets, mais j'ai aussi un TDAH.
Avant, on n'admettait pas que ça puisse coexister, des diagnostics combinés de TDAH et d'autisme, par exemple. Ce qu'on appelle aujourd'hui la double exceptionnalité ou TWICE. C'est seulement depuis la parution du DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux, en 2013, qu'on le reconnaît. Le DSM, en passant, c'est un manuel américain et c'est la référence mondiale en la matière. Bref, la neuropsychologue Éliane Chevrier nous a confirmé qu'aujourd'hui, c'est très courant de recevoir des diagnostics de neurodivergence multiples, autant pour les hommes que pour les femmes.
L'aspect qu'on dit comorbidité, c'est-à-dire avoir plus qu'un trouble, que ce soit autisme et trouble d'attention, autisme et déficience intellectuelle, trouble d'attention et dyslexie, peu importe. Et on sait aussi, de plus en plus, on comprend que quand on a un trouble neurodéveloppemental, on a plus de risques d'en avoir d'autres que si on n'en a pas du tout.
Je trouve ça quand même fascinant parce que l'autiste va vouloir régularité, routine, le TDAH va vouloir de la nouveauté, la dopamine. Comment ça coexiste? Parce que j'ai souvent lu des personnes qui ont les deux diagnostics qui disent que c'est comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur d'elles-mêmes puis que leurs besoins se contredisent l'un l'autre. Donc, ça crée comme de la souffrance supplémentaire. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant.
C'est vrai qu'on voit des fois des choses en opposition ou en contradiction. La personne qui aura un trouble d'attention avec impulsivité, hyperactivité, qui a une grande, admettons, curiosité, qui fait une activité, puis un autre, puis qui change d'emploi, puis qui va faire plein de choses dans sa vie, puis qui carbure un peu à ce changement-là, puis à cette nouveauté-là. On retrouve pas vraiment ça dans le trouble du spectre de l'autisme, où la personne va pas carburer à la nouveauté, puis au changement, puis aux transitions, au contraire. Il y a comme une forme de rigidité, de stabilité. Et oui, des fois, ça entre un peu en contradiction.
J'ai énormément besoin de routine, mais je suis incapable de, si quelqu'un n'est pas derrière moi, de rester dans une routine que j'essaie de me créer moi-même. Faire du ménage, pour moi, là, c'est l'enfer. Je commence dans une pièce, je vais poser quelque chose dans une pièce, je continue dans l'autre pièce, puis ça devient anxiogène parce que j'ai défait plein de zones dans mon espace, puis c'est comme il n'y a plus d'espace qui n'est pas défait.
Andréane, elle sait depuis qu'elle a 12 ans qu'elle a un TDAH, mais c'est seulement à l'âge adulte qu'elle a aussi été identifiée autiste de niveau 1. C'est peut-être parce que son diagnostic initial avait été fait avant 2013, donc avant qu'on reconnaisse la double exceptionnalité. Et c'est peut-être aussi un peu parce qu'elle est une femme. Pourtant, il y avait déjà des signes assez importants dès son enfance, des caractéristiques qu'on attribue maintenant au profil féminin, comme nous le décrit Dr. Hainaut.
J'étais un enfant quand même assez anxieuse. J'étais l'enfant qui aimait suivre les consignes. J'aimais jouer à l'école plus longtemps que ce que tu t'attendrais dans le développement normal d'un enfant. J'aimais beaucoup aussi genre les petites figurines, mais je jouais pas vraiment. C'était des heures et des heures à faire des installations. Puis quand je venais le temps de jouer, je voulais plus jouer, puis je rangeais tout. C'était ça le plaisir, tu sais.
Bien, ça, c'est très typique, là. J'imagine que maintenant, tu fais des liens avec ton passé puis ce que tu sais maintenant de toi-même.
100 %, puis c'est drôle parce que toute ma vie, quand j'étais petite, je voulais mettre un calendrier sur le frigo.
Pour te rassurer dans ton horaire, dans ta routine.
Dans mon horaire, dans ma routine, dans ma structure.
Est-ce que tu te sentais à ta place dans ta famille? Est-ce que tu te sentais comprise et acceptée?
Ben oui, puis non. Tu sais, j'aime beaucoup mes parents, puis j'ai des parents très ouverts, mais juste la façon qu'ils fonctionnaient, eux. Un peu le manque, en guillemets, d'encadrement. Juste, moi, je suis la personne dans ma famille qui a besoin de beaucoup de structure et de routine. Mes parents... Mes frères, c'est beaucoup de spontanéité qu'ils ont besoin. Ils sont très spontanés. J'aime pas ça, la spontanéité.
en plus de ses rigidités, Andréane a aussi des intérêts très intenses et très marqués. Mais contrairement aux intérêts spéciaux des garçons autistes, qui sont généralement un peu plus atypiques, ceux d'Andréane et des femmes autistes en général apparaissent plus conventionnels.
Là, je suis bien dans le crochet. Fait que là, je fais des espèces d'animaux en crochet, des toutous, puis là, j'en fais. Mais c'est une affaire où, genre, une fin de semaine, j'ai écouté 50 vidéos YouTube, je me suis appris comment les faire, puis il y en a partout chez nous, puis j'arrête pas d'en donner à tout le monde. Mais après ça, non... 2 ans, ça va être une autre affaire.
Ça va être autre chose.
Mais c'est vraiment très commun sur les gens qui ont le double diagnostic, l'autisme puis le TDAH. C'est ça. C'est un boost de dopamine. Mais c'est aussi rassurant d'avoir ces choses-là que tu peux t'ancrer. Tu sais que si t'as une journée où t'es brûlé, ça va venir t'apaiser.
Il y a des contradictions, donc, entre les profils autistiques et TDAH. Mais il y a aussi beaucoup de traits communs entre les deux. Puis c'est là que ça peut être constructif d'utiliser le mot neurodivergence de manière plus globale parfois. Ça permet une certaine fluidité.
L'autisme et le TDAH, puis je vous dirais, surtout dans l'enfance, c'est des troubles qui peuvent parfois se superposer, voire être difficiles à distinguer, parce qu'effectivement, ils partagent plusieurs caractéristiques. Dans la rigidité. L'enfant a une façon de faire ses routines, a une façon de prendre ses décisions, a son opinion assez rigide, un peu immuable. Au niveau sensoriel, il va avoir des enjeux d'hypersensibilité ou d'hyperréactivité sensorielle. Alors, les stimuli de l'environnement vont venir agresser la personne plus que pour d'autres. Il y a une partie commune aussi à l'autisme et au TDAH, qui peut se répercuter sur le fonctionnement social, les maladresses sociales, l'impulsivité, rentrer dans la bulle des autres, là, comme les parents ou les enseignants vont nous le dire, ou même nous, ils rentrent dans la bulle des autres, il est peut-être autiste. Ouais, ben peut-être, mais peut-être qu'il est impulsif aussi.
Peu importe leur diagnostic ou la quantité de diagnostics différents qu'elles ont reçus, toutes les femmes qu'on a rencontrées témoignent d'un ressenti et d'une quête similaire. Milka, elle, a reçu un diagnostic de TDAH à l'âge de 27 ans. Elle connaît bien les traits d'impulsivité et de maladresse dont vient de nous parler Dr. Chevrier.
Encore aujourd'hui, à l'âge adulte, j'ai encore cette impulsivité où je parle trop vite. En fait, le truc, c'est que j'ai pas la voix intérieure qui me dit non, il faut le dire à l'intérieur. Là, ça sort.
Ça sort tout seul.
Ça sort, c'est très impulsif, puis c'est comme oh non, l'inhibition était pas là, puis c'est comme oh là 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 là. Oups.
C'est bon.
À l'adolescence, c'est là que les enjeux ont commencé à venir, mais je les mettais un peu de côté. Quand j'ai commencé les études supérieures, là, je voyais que ça devenait de plus en plus problématique. Parce que moi, j'arrivais pas à rester en cours. J'arrivais pas. 3 heures, c'était vraiment trop long pour moi. Puis, donc, j'allais juste pas au cours, tout simplement. Mais j'avais une pression pour y aller. Et donc là, je suis allée voir la psychologue et la conseillère d'orientation. Puis c'est là qu'elle me posait plein de questions sur ma vie d'enfant. Là, ils ont suggéré peut-être que j'avais un TDAH. Puis moi, j'étais comme, OK, whatever.
T'étais pas prête à ce moment-là?
En fait, j'étais pas prête à ce moment-là. Je sais que mes parents m'auraient écouté, mais moi, j'aurais eu trop peur de leur réaction.
Mm-hmm.
Ma mère, elle pensait que être TDAH, c'est pas être intelligent, que tu peux pas avancer dans la vie, que c'est un handicap et tout ça. Donc, je l'ai pas fait. Donc, je me suis dit, mais de toute façon, je vais juste faire comme d'habitude, puis je vais rouler sur l'adrénaline.
C'est quoi pour toi, là, tu dis rouler sur l'adrénaline, ton mécanisme compensatoire, ça fait quoi? Ça fait que tu vas à dernière minute? Comment, oui. Comment tu fonctionnes?
Je ne fonctionne pas, c'est ça. Je survis. La procrastination, OK? Je procrastinais, mais ça, c'est, je pense que tout le monde le fait. Mais moi, c'était un peu trop intense. J'étais dans l'évitement, beaucoup d'évitement. En fait, j'étais dans l'évitement du fait d'être confrontée des conséquences de mon inaction. Ça pourrait être perçu comme de l'anxiété, ça. Mais en fait, à la base, cette anxiété, c'est la résultante du TDAH. C'est pas l'anxiété le problème. C'était pas ça la source, c'était
le TDAH. C'est une manifestation
exactement
du TDAH.
Mais moi, je le savais pas, là, à 18 ans. Mais... mais je savais que je devais réussir, j'avais pas le choix. Donc, je faisais le strict minimum... Et j'attendais la dernière minute. Donc, moi, je suis le genre de personne qui rendait son travail à 23h59.
Mm-hmm.
Puis ça marchait presque tout le temps. Mais d'un autre côté, j'étais malade à chaque fin de session. Quand les examens étaient finis,
je
m'effondrais.
Le manque d'organisation, l'anxiété, la fatigue, puis les surcharges cognitives, c'est des symptômes qui affectent beaucoup de personnes qui ont un TDAH. Mais les femmes, souvent socialisées pour être sages, perfectionnistes et pour pas déranger, vivent souvent davantage les contre-coups de la fatigue reliée à la pression de performance. C'est le cas de Blanche, 19 ans, étudiante au cégep. Blanche est considérée comme douée depuis l'enfance, mais elle a commencé à traverser des périodes particulièrement éprouvantes il y a quelques années. C'est ça qui l'a menée, à 17 ans, à consulter un neuropsychologue, qui lui a confirmé qu'elle avait un haut potentiel et un TDAH.
La surcharge, je l'expérimente beaucoup en termes d'un débalancement entre de l'hyperfocus et une incapacité à me mettre en action, là, dans le fond. Ça, c'est une situation que je vis tous les jours, puis pour des actions tellement banales, autant que genre partir une brassée de lavage que de faire mon gros travail de fin de session, c'est que il y a comme pas de lumière dans mon cerveau qui s'allume et qui me permet de me lever et de faire ce que j'ai à faire. Et je sais ce qui est en train de se produire et je sais ce qui m'attend, mettons, les conséquences. Et ça renforce la paralysie.
Ah, je comprends.
Mon cerveau ne fait que tourner et retourner cette information-là dans ma tête. Et à ce moment-là, tout s'arrête. Tous les multiples monologues intérieurs, là, ça s'éteint. Puis c'est le trou noir. Ça me donne juste envie de m'effondrer puis de pleurer, vu que c'est à chaque action que je dois faire. Et inversement, une fois que la limite d'attente que tu peux te permettre est dépassée, je tombe en période d'hyperfocus et je néglige là, tout le reste. Ça m'arrive très, très régulièrement quand je commence à travailler sur quelque chose le soir. Je peux après ça me lever après des heures puis presque m'évanouir parce que j'ai rien mangé.
Quand elle y repense, avec ce qu'elle sait aujourd'hui, Blanche réalise qu'elle présentait déjà beaucoup de traits de neurodivergence dès l'enfance. Intérêts spécifiques, hypersensibilité, rigidité, entre autres. C'est probablement le fait qu'elle a un haut potentiel qui a retardé son diagnostic. Son neuropsy lui a expliqué que le HPI aide souvent à compenser les lacunes des personnes TDAH ou autistes. En plus, son profil typiquement féminin, c'est-à-dire super bien camouflé et intériorisé, collait pas aux stéréotypes.
J'ai commencé à parler vraiment jeune. À la maternelle, je savais déjà lire. Mais ça, c'est vraiment lié à la douance. Ouais. Je pense, dans mon profil, j'ai vraiment la douance qui se traduit dans les fonctions langagières.
Je trouve que c'est important qu'on parle d'un cas comme le tien parce que on a comme une vision du TDAH qui est d'être énervé, en fait, de ne tenir en place. Mais toi, tu es comme à quelque part à l'opposé parce que tu es dans ta bulle, tu es calme, puis tu es facilement surchargé.
Oui, les gens ont une idée reçue de c'est quoi un TDAH. C'est ça, comme tu disais, là, un petit garçon énervé. Moi, je ne correspond pas du tout à ça. Mais après, je suis quelqu'un qui est déconcentré, qui est dans la lune, qui prend vraiment beaucoup son temps, qui est en retard, qui perd ses choses. Tu peux avoir un TDAH, être hyperactive et être considérée comme une personne calme. Ça dépend si tu fais du masking, si tu l'intériorises beaucoup, etc.
Moi aussi, j'ai le diagnostic de TDAH, puis quand je l'ai reçu, j'étais vraiment comme, ben non, c'est impossible, ça n'a pas rapport, parce que moi aussi, j'étais l'enfant modèle à l'école, là.
En fait, ça lie vraiment au profil féminin. Autant qu'il peut y avoir des filles qui vont être la petite fille turbulente, mais
tout à fait.
Réellement, les filles TDAH, c'est parler beaucoup, couper la parole, le fidgeting aussi. Je sais pas si toi, t'es là-dedans, mais moi, c'est sûr que mon hyperactivité, elle a toujours été présente au niveau du fidgeting, puis ça a été adressé seulement après que j'ai eu un diagnostic, alors que c'est flagrant.
Blanche évoque le fidgeting, qui est une forme d'autostimulation qu'on appelle aussi stimming. Le stimming, c'est une action répétitive, souvent rythmée, qu'une personne fait pour s'autoréguler et s'apaiser. Ça peut être manipuler le premier objet devant soi, se balancer, agiter ses mains ou ses pieds. C'est un comportement lié aux défis sensoriels des personnes autistes et TDAH. Les gens dits neurotypiques peuvent aussi faire du fidgeting ou du stimming, Mais la différence, c'est que pour les personnes neurodivergentes, le besoin de s'autoréguler est plus fréquent et plus intense. Puis pour les femmes, c'est souvent la meilleure manière de canaliser un trop-plein d'énergie ou d'émotion, sans que ça paraisse trop. Des fois, l'autostimulation, ça peut même causer des blessures. J'en ai parlé avec Dr. Hénaud.
Je fais de la dermatillomanie depuis que je suis jeune, dans mon visage surtout, mais les doigts aussi. Ouais. J'ai lu qu'il y avait un lien entre ça et l'autostimulation.
Ben oui, complètement. L'automutilation est proche de l'autostimulation. C'est comme un peu une stéréotypie, une petite manie. Mm-hmm. On a toutes des petites manies, mais là, c'est qu'on voit qu'il y a un degré supérieur. Mm-hmm. Beaucoup de femmes font du grattage. Elles vont s'arracher les petits bouts de peau, gruger les ongles. Il y en a qui vont se tourner les couettes de cheveux, vont finir par gruger le bout de cheveux. Il peut y avoir tout ça. Il y a beaucoup de petits mouvements de mains qui sont très subtils qu'on ne voit pas. Ce n'est pas toujours négatif. C'est une surcharge d'émotions. Mm-hmm. Même des fois, une grande joie, ou des fois parce qu'ils sont nerveuses.
Je me suis mis récemment à essayer de me trouver des vrais objets adaptés à la situation. C'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans ma vie. Quand je vais voir mon psychologue, il y a une boîte. J'ai fait la demande, en fait. Là, je me suis dit, avez-vous des jouets? Fait que j'ai la petite boîte qui m'apporte à chaque fois, puis je trouve ça merveilleux.
Est-ce que tu as des hypersensibilités?
Oui, j'ai plein de sensibilités liées aux textures de la nourriture et au goût.
À cause de leur hypersensibilité, entre autres, les femmes neurodivergentes sont plus à risque de développer un trouble des conduites alimentaires. On va d'ailleurs aborder ce sujet-là plus en profondeur dans un prochain épisode. Aussi, ce qui arrive avec l'hypersensibilité et la rigidité, c'est que ça finit souvent par avoir un impact sur la gestion des émotions. C'est d'ailleurs quelque chose qui affecte beaucoup Isabelle. C'est notamment pour sauver son couple qu'elle a pris la décision d'aller se faire évaluer, pour essayer de comprendre ses rigidités puis expliquer certains de ses comportements.
À la maison, généralement, je vais faire les choses dans le même ordre. Je suis capable d'accepter que certaines choses changent d'ordre ou ne soient pas faites parce qu'il arrive telle ou telle affaire, mais il faut que je le rationalise. J'ai pas le choix. La différence majeure entre une personne neurotypique puis une personne autiste, c'est que ça vient nous drainer, nous chercher, c'est viscéral, tu peux rien y faire. Même si on dit, mais voyons, calme-toi, c'est pas grave. Non, c'est grave. On a de la difficulté avec les nuances. Hein? Au niveau des émotions, on a une palette beaucoup moins grande que les personnes neurotypiques. Chez nous, j'ai fait des crises, c'est gênant, là. T'sais, je suis une adulte, je suis mature, je suis intelligente, j'ai un diplôme de maîtrise, je suis en train d'en faire un deuxième. Je ne suis pas une deux de pique, là. Je suis capable de comprendre. Je pogne encore un peu les nerfs, mais moins fort. Mais je pouvais péter une crise, là. Péter une coche, comme on dit en bon québécois. Là.
La mauvaise gestion des émotions, ça touche la plupart des personnes neurodivergentes, sans égard à leur genre. Par contre, les femmes ont peut-être tendance à culpabiliser puis à se dévaloriser davantage. Toutes celles à qui j'ai parlé m'ont confié qu'elles ont développé une mauvaise estime d'elles-mêmes avec le temps. Se sentir inadéquate, mésadaptée, en décalage, ça laisse inévitablement des traces.
L'image de soi ou la confiance en soi, oui, ça peut être affecté. Admettons, si on parle d'un trouble neurodéveloppemental, ça veut dire... Par définition, il y a un impact fonctionnel au quotidien. Donc, ça a des répercussions négatives. Ça peut avoir des beaux côtés. Puis on en parle beaucoup, par exemple, dans le trouble d'attention, l'aspect créativité, etc. Alors, c'est pas dire que c'est tout noir. Mais en soi, par définition, il y a des impacts fonctionnels problématiques.
Moi, j'ai passé ma vie à m'excuser. T'sais, je m'excusais de tout le temps. Je me rappelle même à début de l'adolescence, de me frapper la tête quand je faisais une gaffe.
Véronique a 45 ans, puis c'est à 38 ans seulement qu'elle a appris qu'elle avait un TDAH. Ce diagnostic sur le tard lui a permis, à elle aussi, de comprendre beaucoup de choses sur son passé.
Je me faisais dire que je parlais trop, je me faisais dire que je faisais ma petite Joe connaissante. Mes deux parents avaient des traits TDAH aussi. J'ai pas appris à me structurer, je pense, parce que mes parents étaient pas structurés. J'avais des chums vite, j'étais impulsive, j'ai eu un fils à 19 ans. Tu sais, je veux dire, j'étais toujours en dehors des normes. Puis souvent, j'étais justement trop intense ou très, très émotive tout le temps. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup nuit dans mes amitiés.
L'hyper ou l'hyposensibilité, les rigidités, un besoin de routine, des intérêts spéciaux, des décalages sociaux, la difficulté à se concentrer ou à maîtriser ses émotions. On s'entend, tout le monde peut vivre ces enjeux-là au quotidien ou à certains moments de sa vie. Où est-ce qu'on trace la ligne?
D'avoir des traits, des caractéristiques, certains symptômes, c'est normal, fréquent, à peu près tout le monde. Quand on prend le DSM, donc le livre qui établit, puis dans lequel on retrouve la description et tous les critères diagnostiques, si on lit tous les troubles, tout le monde se retrouve à plein de places dans ce livre-là. Mais est-ce que je les ai tous à un niveau assez sévère pour qu'il y ait un impact fonctionnel mesurable? Sans doute pas, parce que c'est une minorité de la population.
Le profil féminin de la neurodivergence, souvent intériorisé puis tout en subtilité, du moins en apparence, mérite qu'on s'y attarde. Quand on est une femme neurodivergente, et d'autant plus quand on l'ignore, on fait souvent tout pour rentrer dans le moule et camoufler ce qui pourrait être perçu comme étrange ou différent par les autres. On s'empêche d'apparaître, puis on s'écorche l'estime de soi au passage. Dans le prochain épisode, on va justement s'attarder au phénomène du camouflage.
On dit un peu si on a des ressources pour compenser, pour pallier, ça paraît moins. Donc, on peut être identifié ou diagnostiqué plus tard.